possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. La lutte des classes existe bel et bien malgré les discours officiels. Nous allons parler non pas de l'ensemble des gens diplômés de l'université, mais des 5 à 10% qui sont le gratin et qui sortent des établissements les plus prestigieux. Alors c'est ces gens-là qui perçoivent chaque mois les dividendes de leur capital éducatif et culturel. Ils savent de quoi nous souffrons et délivrent de précieux diagnostics. Nous faisons tourner la machine qui transfère les ressources des 90% vers les 0,1%. Nous avons été heureux de prendre notre part du gâteau. C'est nous qui permettons le transfert de ces richesses du plus grand nombre vers le plus petit nombre grâce à ces 10-15% de surdiplômés de l'université. Voilà leur fonction.
Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off, émission insolente qui dit du mal du capitalisme et des collaborateurs du capitalisme. On dit souvent que 99% de la population mondiale est asservie et vampirisée par les 1% les plus riches. Ces 1% qui sont en train de gagner la lutte des classes, comme disait jadis le milliardaire états-unien Warren Buffett. Or, pour citer la Boétie, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et aussi parce que les tyrans assoient leur pouvoir sur de très ailés collaborateurs, des domestiques savants, parfois issus de milieux modestes, et leurrés par l'appât d'une promotion sociale. Car dans leur entreprise de domination de tout le monde, les 1% de vampires sont assistés par 10 à 15% de chiens de garde. 10 à 15% d'élite méritante dressée dans l'enseignement très supérieur, 10 à 15% de larbins sans lesquels les 1% les plus riches ne seraient rien. On en parle aujourd'hui avec notre ami André, notre professeur d'histoire-géographie préféré. Salut André.
Bonjour à tous.
Retour sur l'édition d'août 2020 du Monde Diplomatique avec cet article de Pierre Rimbert dont tu t'es délecté. On aime beaucoup hein, ce qu'écrit Pierre Rimbert en général, c'est une des plumes qu'on apprécie dans le monde diplomatique. Avec cet article, la bourgeoisie intellectuelle, une élite héréditaire. Quand un groupe social cumule le savoir, le pouvoir et l'argent. La société, lit-on souvent, serait divisé entre les 1% les plus riches et les 99% restants. Mais ce résumé choc évacue les inégalités liées au diplôme et dissimule le rôle joué par la bourgeoisie intellectuelle qui, même lorsqu'elle sert les 1%, aime se représenter dans le camp des opprimés. Cette couche sociale issue de la « méritocratie » entre guillemets, transmet ses privilèges à ses descendants comme l'aristocratie d'autrefois. Une introduction qui fait tout de suite penser à l'opuscule que Serge Halimi a écrit sur la caste journalistique, hein, les nouveaux chiens de garde. Et chose d'ailleurs que j'ai pu constater moi-même dans l'entreprise d'État Radio France, où il y a des dynasties familiales. Hein, il y a des patronymes qu'on retrouve de génération en génération. Mais on est de gauche, hein, parce qu'on est journaliste.
Oui, je pense que tous les gens un peu lucides ont expérimenté, ont vécu ces situations, ont fréquenté des gens qui vont être l'objet de notre article d'aujourd'hui. Alors c'est un sujet apparemment éculé, enfin la méritocratie, l'énarchie, souvenez-vous de tous ces articles sur l'énarchie, c'est-à-dire sur le gouvernement des énarques, etc., sur la dictature des diplômes, etc., etc. Et cependant c'est un article très éclairant, éblouissant même à certains égards, qui nous montre le fonctionnement de la société actuelle, du gouvernement actuel, des pouvoirs, etc. C'est l'état final en fait d'une orientation déjà ancienne, hein. Et il nous expose, ça qui est intéressant, les prolongements politiques de cette situation, les plus actuels. Alors tout d'abord, Pierre Rimbert part d'un ouvrage d'un sociologue anglais, édité en 1958, vous voyez, c'est pas jeune, hein, qui s'appelle Michael Young, The Rise of Meritocracy, l'essor de l'aristocratie, de la méritocratie, 1878-2033. un essai sur l'éducation et l'égalité. Un essai, mais c'est surtout une anticipation dans le sillage des ouvrages de George Orwell, 1984, ou de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Et ça dépeint une, ce que les universitaires appellent une dystopie, c'est-à-dire une utopie négative, un avenir qui n'est pas utopique, hein, mais qui est même plutôt assez sombre. Il nous décrit le cauchemar d'un monde moderne dirigé non pas tant par le peuple que par les gens les plus intelligents, un gouvernement des intellectuels. Alors il situe l'action au début de 2034. Alors le narrateur est un sociologue, comme dit Rimbert, boursouflé, qui résume la société britannique du XXe siècle comme une tyrannie exercée par les diplômés de l'enseignement supérieur. Au prétexte d'une égalité des chances, hein, qui a toujours été fictive, hein, les hiérarchies s'échelonnent désormais en fonction de l'intelligence. L'ordre social se perpétue par l'école, qui transmute les privilèges de classe en dons et mérites. Voici la première citation de Young. Ouvrez les guillemets. Les rangs des scientifiques et des technologistes, des artistes et des enseignants ont gonflé. Leur éducation a été ajustée à leur haute destinée génétique. Leur pouvoir de faire le bien a été accru. Le progrès est leur triomphe, le monde moderne, leur monument. Fermez les guillemets. Pierre Rimbert poursuit et illustre la multiplication du nombre de diplômés de l'enseignement supérieur. Retour à la société française. Ce sont des statistiques de l'INSEE qu'il cite. Hein. Les cadres et professions intellectuelles et supérieures, c'est comme ça qu'à l'INSEE on range ces intellectuels. Ils étaient 900 000 en 1962 et représentaient 4,6% de la population. Ils sont aujourd'hui 5 millions, 18%. Sur ces 5 millions, une minorité se détache. Sortis des universités et écoles les plus sélectives, c'est la fraction supérieure. Ils sont 5 à 10% des populations actives occidentales, et cela inclut bien sûr les fameux 1% les plus riches, mais ça déborde assez largement quand même. Hein. C'est de cette intelligentsia opulente qu'il est question dans cet article de Pierre Rimbert. Hein, donc nous allons parler non pas de l'ensemble des gens diplômés de l'université, mais des 5 à 10% qui sont le gratin, qui sont supérieurs et qui sortent des établissements les plus prestigieux. Alors c'est ces gens-là qui perçoivent chaque mois les dividendes de leur capital éducatif et culturel. Ils détiennent le pouvoir de prescrire, ils savent de quoi nous souffrons et délivrent de précieux diagnostics. Alors je n'ai pas besoin de vous préciser, hein, de vous illustrer ça avec le nombre de gens qui savent, qui passent dans les médias, dans les journaux télévisés, etc. Hein, nous avons invité aujourd'hui notre spécialiste de ceci ou de cela. Voilà, ils sont là. Et c'est donc les gens qui font les analyses et prescrivent les solutions.
Tu sais André, je ne résiste pas au plaisir de faire une incise musicale avec cette chanson d'Alain Chamfort, « Les spécialistes ». Amusez-vous au cours de cette chanson à remplacer le mot spécialiste par journaliste.
Les spécialistes ont raison, le plus souvent avant tout le monde. Les spécialistes ont raison, l'estime qu'on leur porte est profonde. Les spécialistes jouent du pipo, du pignou, mais ils jouent mieux que nous. Les spécialistes ont raison, ce sont nos guides, nos mentors. Les spécialistes ont raison, même quand les spécialistes ont tort. Les spécialistes jouent au docteur, au gourou, mais ils jouent mieux que nous. April, qu'en pensez-vous?
Les spécialistes vont détester cette chanson. Leurs fiancés danseront dessus de toute façon. Et puisque les filles font ce qu'elles veulent des garçons, les spécialistes danseront jusqu'à en perdre la raison.
choisi spécialement de se spécialiser. Les spécialistes jouent pour la gloire, pour les sous, mais ils jouent mieux que nous.
Fort, les spécialistes, pour illustrer le propos de notre ami André qui se penche aujourd'hui sur cet article de Pierre Rimbert paru en août 2020 dans Le Monde Diplomatique. La bourgeoisie intellectuelle, une élite héréditaire. Avant que tu poursuives, André, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de ce terme que tu as employé déjà plusieurs fois et qu'on entend à l'occasion de méritocratie ? Alors, on pourra l'opposer, bien sûr, à ce film que tu nous as signalé il y a quelques années et qu'on vous invite à voir et revoir, parce que toute l'histoire de l'humanité et de son avenir est délivrée dans la première minute 30 de Idiocratie, ce film magnifique. Mais quelle serait la définition de méritocratie ?
Ah, c'est un terme équivoque, hein, parce que méritocratie, bon, étymologiquement, c'est le gouvernement des gens qui sont méritants. C'est-à-dire qu'on a plus de mérite que les autres.
Ça a plutôt une connotation positive. C'est-à-dire, voilà, tu t'es retroussé les manches, tu t'es donné du mal, et puis bah tu mérites, donc tu as.
Bien sûr, mais le deuxième sens, hein, ou deuxième usage du mot, c'est le gouvernement des gens qui ont des diplômes. Pas forcément les plus méritants, mais c'est des gens qui ont certains diplômes, qui détiennent un pouvoir qu'il aurait dû grâce à des diplômes qui sont issus des meilleures écoles, des meilleures universités, etc., etc. Donc c'est plus tout à fait le même sens.
Des écoles auxquelles les pauvres accèdent en masse, bien sûr.
Bien sûr que non, mais justement, nous allons en parler, hein, on se réserve quand même les bonnes filières, hein, évidemment. C'est sûr que le mot méritocratie aussi, il est une sorte de justification de leur pouvoir, hein. Nous gouvernons parce que nous sommes les meilleurs. Ça ressemble un petit peu aux arguments de l'aristocratie grecque de l'époque archaïque. Nous sommes des aristocrates. Aristocrate veut dire le gouvernement des meilleurs, en grec, hein, les meilleurs. Hein, bon, et donc, pourquoi sommes-nous les chefs des cités grecques ? C'est parce que nous sommes les meilleurs. Et pourquoi sommes-nous les meilleurs ? Parce que nous descendons des meilleurs. Alors souvent, les aristocrates se donnaient des ancêtres prestigieux, des demi-dieux, on descendait d'Hercule, on descendait de... Et donc, forcément, on était les meilleurs. Donc, ils se réservaient la terre, le pouvoir religieux, le pouvoir politique, le pouvoir guerrier, etc. Enfin bon, c'était l'aristocratie de l'époque grecque.
Méritocratie, donc il y a la notion de mérite. Là, c'est pas un truc hérité de droit divin. On mérite parce qu'on a bossé, parce qu'on a bien travaillé à l'école, qu'on a ramené des bons points.
Mais on va voir que si l'école et les diplômes étaient démocratiques, étaient réellement accessibles à tout le monde, ce serait une méritocratie. Là, en l'occurrence, on va voir, c'est pas tout à fait ça, hein, et on va voir comment ces gens se réservent en fait le pouvoir. Première question que se pose Rimbert, et elle est pertinente, est-ce que ces gens, on peut les appeler intellectuels, entre guillemets, encore un autre mot, à multiples déclinaisons. Bon, en fait, non. Depuis l'affaire Dreyfus, la légende célèbre les créateurs, le créateur et le dépositaire du savoir, l'intellectuel en quelque sorte. Mais aussi, l'intellectuel est, depuis l'affaire Dreyfus, on sait bien, l'adversaire de l'ordre établi. L'intellectuel est anticonformiste, ou en tout cas anti-ordre établi. Est-ce que ces gens dont nous allons parler sont ennemis de l'ordre établi? C'est tout le contraire. Ce sont les soutiens, les meilleurs soutiens de l'ordre établi. Donc, en matière d'intellectuel, ils repasseront en quelque sorte. Hein. Aujourd'hui, combien de Sartre, de Bourdieu, authentiques intellectuels, face aux millions de managers, juristes, urbanistes, sociologues, ajoutons historiens, dociles, tout à fait soumis hein, aux injonctions du grand capital qui nous gouverne. Très peu d'intellectuels et beaucoup de managers. Hein, avec ça. Alors ce qui est évident, c'est que ces gens écrivent eux-mêmes leur histoire. Hein. On l'avait déjà dit dans d'autres émissions. Hein. Donc ils écrivent de la même façon leur sociologie hein, et l'histoire tout court. Donc c'est, souvent ils se font passer pour des grands anticonformistes, etc., etc. Alors que ce sont les soutiens les plus conservateurs de l'ordre établi. Rimbert dit que l'histoire retient souvent le rôle progressiste des couches lettrées. Savant, encyclopédiste, avocat révolutionnaire, écrivain séditieux, hussard de la République, fermez les guillemets. Et cette histoire oublie ou minimise les épisodes les moins glorieux de ces couches intellectuelles. On pourrait remonter par exemple à la Commune de Paris en 1871, au cours de laquelle la quasi-totalité des gens de lettres s'est alignée sur les classes possédantes et ont approuvé la plus effroyable répression du mouvement populaire.
Flaubert m'a beaucoup déçu.
Et il y en a bien d'autres, hein. 30 000 à 40 000 morts à Paris quand même, ça a été un massacre, 10 000 déportations, etc. Et là-dedans, les intellectuels, bah, à part quelques rares exceptions, ça a été le silence, quoi, en quelque sorte.
Zola a été un peu décevant aussi sur l'affaire de la Commune, non? Enfin, de l'auteur de Germinal et tout ça, on aurait pu s'attendre à mieux.
Cela dit, accordons à Zola que c'était pas un tribun révolutionnaire, anticonformiste, etc. C'était un écrivain de la société. Balzac aussi se disait parfois monarchiste, hein, bon, alors qu'il nous fait une description cruelle de la société bourgeoise du 19e siècle. Enfin, c'est une description qui est irremplaçable pour l'analyste d'aujourd'hui. Donc, on peut être en même temps un grand intellectuel et ne pas s'engager dans le mouvement social et trucs comme ça. Mais enfin, bon, toujours est-il qu'on ne peut que constater l'absence d'intellectuels de combat à certaines époques. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Hein. Où sont les intellectuels qui dénoncent? Il y en a sans doute, mais ils sont extrêmement minoritaires. Bon, il est vrai qu'avec le système médiatique aujourd'hui, ils sont muets, ils n'existent pas. Mais quand même, on pense que le milieu universitaire est particulièrement faible concernant les violences policières et l'inégalité invraisemblable de notre société actuelle et la cruauté de cette société à l'égard de certaines catégories sociales. L'indifférence, pour pas dire le mépris, de ces intellectuels, enfin, ou de ces, plutôt, je barre le mot intellectuel, de ces gens diplômés, hyper diplômés. Il y a même un véritable mépris ou une véritable hostilité qui s'exprime de façon un peu détournée contre les black blocs, contre les anarchistes, contre les gilets jaunes qui sont des populistes, etc.
Les zadistes qui sont de vilains squatteurs.
Voilà, ou contre les banlieusards qui sont manipulés par les intégristes, etc., etc. En fait, tout ceci manifeste quand même, sur le fond un peu, un mépris de ces couches diplômées riches à l'égard du mouvement populaire, une indifférence. Parce que ça a quand même été ça, les intellectuels, ça a quand même été la solidarité, la compassion à l'égard des gens les plus pauvres. Prenons un Victor Hugo, qui est quand même un homme de la bourgeoisie, de la bonne bourgeoisie. Il écrit Les Misérables et de nombreux épisodes de sa vie, il est vraiment à gauche, par compassion, par sentiment chrétien peut-être. Mais ça, ça compte, évidemment.
Un type à qui j'ai envie de foutre des beignes à chaque fois que j'entends sa voix, d'ailleurs j'éteins le poste tout de suite, c'est Enthoven, Raphaël Enthoven. Ah, il est mielleux, il est doux, il est cultivé, il est philosophe. Non, alors il n'est pas du tout du côté des gens, ni du peuple. Hein.
Non.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille, et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou au E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches et pour toujours.
Et nous avons autour de nous beaucoup de ces diplômés forts de leur formation universitaire et qui sont bénéficiaires de ce monde. C'est ce qui explique peut-être aussi leur position. Ils sont devenus ou ils sont restés des conservateurs qui ne disent pas leur nom. Alors, je ne suis pas conservateur, vous savez, je suis progressiste, moi, n'est-ce pas? Et qui affichent des idées, des positions de gauche de façade, quoi.
À la Hollande, tu veux dire?
Oui, bah, nous, au cours de ces émissions, nous cessons de stigmatiser ces jocrices, ces tartuffes. Hein. En fait, ce sont les meilleurs soutiens de la société actuelle. Hein, et ils sont prêts à soutenir Macron, hein, société chargée de pouvoir de la Banque Rothschild. Hein. Voilà une position de gauche, hein, voter pour un chargé de pouvoir de la Banque Rothschild. Dans ce catalogue des exemples de symbiose des élites et des classes dominantes, Rimbert évoque brièvement la période de Vichy. Vichy, derrière le décor, l'écran passéiste, traditionnaliste, de retour à la terre, à la province, aux vraies valeurs, aux métiers, aux bonnes vieilles valeurs décorées de feuilles de chêne, etc. Vichy a été un régime politique dominé par des experts, par des polytechniciens, par des gens hautement diplômés, qui étaient derrière et qui ont été les vrais instigateurs de la politique de Vichy. Des cadres de grandes entreprises de banques, étudiés par Paxton ou Lacroix-Risse, n'est-ce pas, les Leideux, Pucheux, tous ces gens sont archi-diplômés, crème de la crème, des cadres de la société, etc. Ben, ces gens ont été les meilleurs soutiens du régime de Vichy, les architectes de la politique de Vichy. Et c'était une technocratie, une méritocratie qui savait exactement ce qu'elle voulait. Alors Rimbert rappelle également le rôle éminent joué dans l'Occident médiéval par le clergé instruit. Hein, au Moyen-Âge, les seuls gens dépositaires de la culture, de l'écriture même, c'était les clercs, c'est-à-dire les gens d'église, moines, évêques, etc. Détenteurs du monopole d'accès aux écritures et qui légitiment le pouvoir des propriétaires de la terre. Classe dont ils sont eux-mêmes issus, le plus souvent en noblesse et haut clergé. C'est la même classe sociale la plupart du temps. Ainsi, le moine Raoul Glaber, Raoul le Glabre, c'est-à-dire qui n'avait pas de poil au menton, est souvent cité lorsqu'il expose la trifonctionnalité de la société de son époque. Il s'agit du XIe siècle, c'est-à-dire du tout début de la société féodale. Et quand il décrit cette société, qui est la société idéale, qui est le modèle de l'Église, il divise la société en trois classes. Ceux qui prient, oratores. Ceux qui combattent, bellatores. Et ceux qui travaillent, laboratores. On a bien compris que ceux qui travaillent nourrissaient les deux premiers, bien sûr. Évidemment, ben oui, faut pas confondre quand même. En fait, il s'agit d'une justification de la société féodale dans laquelle noblesse guerrière et église se partageaient les terres, le pouvoir sur la terre et les paysans.
Je te trouve un peu dur sur les trois catégories, ceux qui prient, ceux qui... Parce que quand même, ceux qui prient, ils prient aussi pour les deux autres.
Oui.
Alors, c'est pas le même boulot, on est bien d'accord.
Alors je prie d'excuser les gens qui seraient choqués, par mon exposé un peu rapide du clergé. Il est vrai qu'il priait pour tout le monde, pour l'âme de tout le monde. Et d'ailleurs, tous les gens étaient égaux au ciel.
Il suffisait juste d'attendre un peu, quoi.
Oui, et d'ailleurs, il y avait un tri au départ, les bons et les mauvais, quelle que soit leur situation sociale. C'était l'égalité pour l'Église, était une égalité après la mort. Il y avait un grand jugement et les méchants seraient punis sur terre, pour question. Alors, Rimbert évoque aussi, alors là, l'exemple est évidemment caractéristique, les 2000 ans de Chine impériale, deux ou troisième siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 1950. Dans ces 2000 ans de Chine impériale, eh bien écoutez, je vais citer Rimbert, c'est mieux. La classe des fonctionnaires lettrés ou mandarins, couche infime quant à son nombre, omnipotente quant à sa force, son influence, sa position, son prestige, est le seul détenteur du pouvoir, le plus grand propriétaire. Elle possède tous les privilèges, et d'abord celui de se reproduire, elle détient le monopole de l'éducation. Cette classe de lettrés, on va voir qu'on a des raisons de pouvoir comparer l'actuelle méritocratie soi-disant républicaine en France aujourd'hui à cette classe de mandarins de la Chine impériale. Alors ça va faire hurler évidemment nos démocrates riches, mais enfin c'est comme ça que ça se passe. Sautant dans la période contemporaine, l'auteur y voit les premières analyses des intellectuels comme nouvelle classe sociale au XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, avec le développement du capitalisme, la formation de vastes fonctions publiques, de diplômés, et de grandes administrations d'entreprises, et même de grands partis ouvriers centralisés comme en Allemagne, on voit apparaître cette méritocratie, cette classe de gens qui ont le savoir et les diplômes, etc., et qui savent, hein, qui sont les experts. D'ailleurs, Saint-Simon, le fameux Saint-Simon, 1760-1825, qui était un philosophe, avait rêvé un monde dominé par les savants, les industriels, les entrepreneurs, en quelque sorte, qu'il considérait comme les gens utiles, et qui écarterait du pouvoir la noblesse, le clergé, les rentiers, qui sont en quelque sorte les gens inutiles et parasitaires. Une des premières contestations globales de la société industrielle, telle qu'elle fonctionnait au début du XIXe siècle, c'est ce Saint-Simon. Alors, ce Saint-Simon a eu une postérité utopique avec un certain nombre de rêveurs, mais il a eu aussi une postérité technocratique dans des grands entrepreneurs. Ferdinand de Lesseps, concepteur du canal de Suez, a été un Saint-Simonien, ainsi que un certain nombre de créateurs de grandes banques comme le Crédit Lyonnais, tous ces gens qui ont créé ces grandes banques de dépôt, ce sont des Saint-Simoniens. Et on peut noter aujourd'hui, ça c'est moi, c'est une réflexion que je fais moi-même, qu'il existe un gros, une sorte de think tank Saint-Simon en France.
Un réservoir de pensée, André, un réservoir de pensée.
Tu as raison, parlons français, un réservoir d'idées, de pensées, etc., de gens qui savent, qui sont plus malins que les autres, etc., et qui proposaient une autre solution. En réalité, ces gens-là étaient des libéraux, mais des libéraux malins. En Allemagne, Rimbert nous dit qu'également Hegel, Friedrich Hegel, imagine un monde moderne, un état moderne reposant sur des fonctionnaires éclairés qui formeraient une sorte de classe universelle. Les idées sont de 1821. C'est contre cet état moderne et socialiste que s'insurge Bakounine. Bakounine, célèbre théoricien anarchiste, nous dit contre cet état. Tout cela exigera une science immense et beaucoup de têtes débordantes de cervelle. Ce sera le règne de l'intelligence scientifique, le plus aristocratique, le plus despotique, le plus arrogant et le plus méprisant de tous les régimes. On peut penser ce qu'on veut de Bakounine, n'empêche que cette anticipation sur ce qui se passe aujourd'hui est assez saisissante, c'est tout à fait ce qui se passe. Alors lui s'insurgeait contre une sorte de rationalité plus ou moins socialiste, contre l'état bourgeois brutal. On proposait une sorte d'état des philosophes, des cadres, etc. Et Bakounine dit « méfions-nous de ça, ça peut faire un état despotique ». Alors quand Jung rédige son livre à la fin des années 50, le thème de la classe méritocratique a plutôt bonne presse. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en est, mais à l'époque, il est plutôt bonne presse. À l'Est, par exemple, dans le système éducatif soviétique, on a produit des millions d'ingénieurs, de cadres administratifs, surdiplômés, etc. Donc, une sorte d'espoir que les sociétés reposent désormais sur des gens non seulement capables, mais intelligents, éclairés, etc., etc. Et à l'Ouest, on constate la prolifération d'une technostructure, tout à fait bien décrite par Galbraith dans son nouvel état industriel de 1967. Galbraith en profite pour dire « il n'y a plus de bourgeoisie maintenant, il y a une technostructure, etc. etc. » Encore une façon de faire disparaître la lutte des classes. Bon. Et effectivement, il y a naissance d'une néo-bourgeoisie cultivée, qui va fournir d'ailleurs pendant quelques années la base sociale de la nouvelle gauche à l'américaine. Hein ? Songeons à, non pas à Servan-Schreiber, mais enfin à toute cette nouvelle gauche qui naît et qui va former le Parti Socialiste, par exemple, en France. Et aux États-Unis, ces milieux universitaires qui, à partir de Kennedy, vont former l'ossature de l'administration présidentielle américaine. Alors évidemment, c'est pas bon signe parce que ces universitaires vont être quand même les cadres de la guerre du Vietnam, soit dit en passant. Au-delà de leur inclination politique, qu'ils viennent d'un milieu conservateur ou d'un milieu plutôt à gauche, ils nourrissent une même défiance, ces intellectuels, enfin ces diplômés, surdiplômés. Une certaine défiance vis-à-vis des extrêmes. Même s'ils ont été maoïstes ou trotskistes en 68, ils sont méfiants à l'égard du collectivisme, du traditionnalisme. Aujourd'hui, on voit très bien quelle est leur option politique. On est contre le populisme, on est contre, bien sûr, contre le collectivisme, etc., etc. Et la tentation est grande d'en finir avec les idéologies. Ça a été le grand thème des années 80-90. Ce thème s'impose d'autant plus spontanément à leurs yeux qu'elle prélude au gouvernement des experts, des énarques, etc. Pourquoi avoir une gauche, une droite, puisqu'on a des gens qualifiés, brillants diplômés, économistes, juristes, journalistes. Ce sont ces gens-là qui, dans les années 70, vont engager l'offensive qui conduira au grand bond en arrière libéral. ça commence dans les années 70, le grand bond en arrière libéral. Il nous arrive pas aujourd'hui avec Macron, hein. C'est bien avant. D'ailleurs, à l'intérieur du Parti Socialiste, dans les années 80, au moment où les socialistes prennent le pouvoir en 81, parmi ces gens qui vont devenir ministres, cadres supérieurs de l'administration, etc., ils sont presque tous acquis aux idées libérales. Le travail est fait. Idéologiquement, le travail est fait. Et on doit ça à l'ENA, on doit ça aux grandes écoles de journalisme, etc., etc. Ces hauts cadres grassement rémunérés par les institutions financières, parfois, la plupart du temps, etc. Ce sont les gens qui vont être le fer de lance des idées libérales et de la réaction ultralibérale.
Notons au passage qu'en France, une partie de nos élites diplômées et dirigeantes ont été dans leurs jeunes années formatées par une officine états-unienne à laquelle la CIA n'est certainement pas étrangère. La French American Foundation, fondée en 1976 et qui existe toujours aujourd'hui, et dont l'une des activités est l'organisation de séminaires pour jeunes et futurs dirigeants français, des dirigeants issus de la politique, de la finance ou de la presse, des dirigeants à fort potentiel de leadership et appelés à jouer un rôle important dans leur pays et dans les relations franco-américaines, peut-on lire sur le site de la French American Foundation. Depuis sa mise en place en France en 1981, plus de 400 dirigeants français issus des mondes de la haute fonction publique, de l'entreprise, des médias, de l'armée et de la recherche ont bénéficié du programme Young Leaders de la French American Foundation. Et parmi ces élites, on trouve par exemple dans la sphère des médias Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate et ancien directeur du Monde, Bernard Guetta, prétendu journaliste à France Inter, le gentil Jean-Noël Jeannet, ancien PDG de Radio France et qu'on appelait Jean Nono, président de la Bibliothèque Nationale de France et animateur sur France Culture de l'excellente mais très anticommuniste émission Concordance des temps, c'est le samedi matin sur Culture. Parmi ces élites formatées par les services américains, on trouve aussi Laurent Geoffrin, PDG de Libération, qui est, comme chacun sait, un grand journal de gauche. Donc voilà quelques exemples de personnalités médiatiques formatées par les services américains. Dans le domaine stratégique et économique, citons Anne Lauvergeon, surnommée à l'époque Atomic Anne, car ancienne présidente d'Areva, une grande entreprise écologiste. Et dans le personnel politique passé au lavage de cerveau, formé par l'oncle Sam, on trouve Nathalie Kosciusko-Morizet, dite NKM, ancienne ministre de l'écologie, mais également Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, ainsi que François Hollande, un soi-disant homme de gauche qui se prétendait ennemi de la finance, François Léotard, ancien ministre de la Défense, ou Alain Juppé, ancien premier ministre, député, maire de Bordeaux, vous savez Juppé, celui qui prétendait être droit dans ses bottes. Mais n'allons surtout pas en déduire que les services secrets américains ont infiltré et formaté une partie des élites dirigeantes françaises. Ce serait du complotisme, hein. Cela dit, vous pouvez vérifier tout ça sur Fachopédia, sur Wikipédia, c'est écrit noir sur blanc. Bref, revenons-en à notre article avec André, la bourgeoisie intellectuelle, une élite héréditaire.
C'est très clair, les États-Unis sont un des artisans de la formation de cette bourgeoisie élitiste, ultralibérale, etc., qui va parvenir au pouvoir et y rester jusqu'à nos jours. Bien sûr, ça répond à la même idéologie, hein, et au même combat du libéralisme. Je vais vous faire une citation de Pierre Rimbert. Dans la fiction de Jung, le gouvernement des intellectuels parvient à maturité au début du XXIe siècle. Nanti de privilèges en nature, appartements confortables, dîners de gourmets, vacances somptueuses, la classe éduquée scolarise ses enfants dans des établissements distincts et ne se reproduit désormais plus qu'en son sein. Ouvrez les guillemets, là c'est une citation de Jung. L'élite est en passe de devenir héréditaire. Les principes de l'hérédité et du mérite se rejoignent. Fermez les guillemets, observe le narrateur, vaguement inquiet de la tournure des événements. C'est-à-dire que vous voyez ce que dit Jung dans son anticipation, et ce que commente Rimbert, c'est que cette méritocratie devient héréditaire, devient une caste. Un peu comme en Inde, la caste des brahmanes, c'est eux qui ont le savoir, le pouvoir, et bien sûr, les émoluments, la rémunération qui va avec, c'est-à-dire l'argent, l'argent.
Il y a des sociologues, Bourdieu, mais je pense aussi au couple Pinson-Charlot, qui a beaucoup étudié ce qu'on appelle les riches pour aller vite, ont souligné et démontré d'ailleurs que cette classe sociale des riches est probablement la dernière classe sociale à avoir conscience qu'elle est une classe sociale. Parce que sinon, toutes les autres, on nous a fait croire que depuis qu'on s'habille tous en Benetton et machin, qu'on est tous égaux, tous pareils, finalement, les gens ont oublié dans leur grande majorité ce qu'est la lutte des classes, etc. Sauf les riches. Les riches savent qu'ils sont une classe sociale. Cette classe sociale qui a encore conscience d'être une classe sociale sait se montrer tout à fait solidaire avec elle-même. Ce qui n'est peut-être pas le cas des autres classes sociales qui ont oublié qu'elles sont une classe sociale.
Oui, mais ce qui apporte un peu de confusion, c'est que les Pinson-Charlot ont fait des ouvrages absolument admirables que je conseille à tout le monde, mais ils s'intéressent au 1%, c'est-à-dire aux plus riches. Et Rimbert a raison de dire que ça masque une partie de la réalité. Ces 1% les plus riches ne seraient rien sans les 10% de cette méritocratie héréditaire. Et qui fabrique l'opinion, qui fabrique l'idéologie, les prescripteurs sociaux, politiques, économiques, etc. C'est ceux qui font marcher la machine oligarchique, c'est ces 10%. Ils ne font pas partie de l'oligarchie, quoi qu'ils peuvent y accéder, mais enfin, ils n'en font pas partie, mais ils participent à plein à ce régime économique et politique.
De France dimanche à Diderot, l'humanité, le veuve Clicquot, Lénine et le satiricon, Bossuet et la fille Napoléon, ici Paris, le flanc du métro, puis les pensées de Mao, le Vatin et le dictionnaire, de l'Alsace et puis du Sancerre. Karl Marx, les frères Goncourt, détraquent la cassette de Saint-Flour, le potin et les frontispices, un petit coup de pour nos aspices, les tichestes et les élections, les constellations, les macons, des trucs savants, des trucs cochons, c'est pour ça que je suis un con. J'ai tout lu, tout vu, tout vu, j'ai tout su, tout lu.
Jacques Dutronc a tout vu, tout lu, tout bu. Et nous, on est toujours avec notre ami André pour la suite du survol de cet article de Pierre Rimbert paru dans Le Monde diplomatique, « La bourgeoisie intellectuelle, une élite héréditaire ».
Alors Rimbert fait une citation fort intéressante de Émile Boutmy. En 1871 est créée l'École libre des sciences politiques, ce qui deviendra Sciences Po, pour la formation des élites précisément, etc. Et voilà les raisons que donne Émile Boutmy. J'ouvre les guillemets. Contrainte de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que, derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacités dont on ne puisse pas se priver sans folie. Fermez les guillemets. C'est extraordinaire ce texte-là. En gros, que dit Boutmy ? Il dit, bon, la bourgeoisie, il ne suffit pas qu'elle possède les moyens de production et d'échange. Ça ne suffit pas pour justifier les inégalités flagrantes avec le plus grand nombre. C'est la démocratie, c'est le suffrage universel. Il était question, d'ailleurs, en 1871, du suffrage universel de la République, qui venait de s'établir. Donc, il s'agit, face à ce danger mortel pour la bourgeoisie, le plus grand nombre, d'établir un pouvoir qui se justifie par le mérite, par les diplômes. Voilà à quoi devait servir Sciences Po. Une école destinée à la bourgeoisie, aux enfants de la bourgeoisie. À l'époque, il n'est pas question qu'un enfant de prolétaire accède à Sciences Po. Et que cette école fabrique les cadres nécessaires au pouvoir de la bourgeoisie. Et qu'on ne puisse pas le contester, ce pouvoir, puisque ces gens sont indispensables. Ou alors ce serait une folie, quoi, de vouloir se passer de ces cadres indispensables. Et si on y songe, l'ENA, qui est créée pour des besoins inverses à la libération, on crée l'École nationale d'administration précisément pour réagir contre le fait que la bourgeoisie se réservait les postes, se répartissait le pouvoir administratif, de gestion, etc. Donc l'ENA, au départ, était un truc démocratique. Il s'agissait de faire entrer n'importe qui, il suffisait de passer le concours et de rentrer à l'ENA pour devenir un cadre de l'administration, etc. etc. Et l'ENA, vous avez vu ce que c'est devenu, en fin de compte. Les intentions, ça compte sans doute, mais c'est pas suffisant. C'est comme l'école, l'université, etc. On a beau dire que l'école a des buts démocratiques, de mettre à la disposition de tous les enfants du peuple les mêmes connaissances, des trucs comme ça. Si votre société est inégalitaire, elle va avoir un système éducatif inégalitaire. C'est inévitable. Alors c'est dur pour les enseignants, évidemment, qui croient encore que leur tâche est démocratique, alors que l'école fonctionne de façon très antidémocratique. Hein? Mais enfin, c'est comme ça. Hein? Les études de Bourdieu passeront, etc. Et toutes les études qui sont faites sur le système éducatif aboutissent aux mêmes conclusions. Hein? On a un système élitiste. La bourgeoisie se reproduit dans ces écoles, etc. Bon, je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, vous allez comprendre. Hein? Bon, alors, cette méritocratie, c'est une orientation générale. En Europe, il n'y a pas que la France. Hein? Bon, les États-Unis, ça, on le sait, c'est l'état final d'aboutissement de ce système. Mais même dans les autres pays, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, Pays-Bas, toutes les études montrent que ce sont des diplômés qui sont au pouvoir. Alors que, bon, théoriquement, dans aucune constitution, il est dit qu'on doit être diplômé pour être ministre, président de la République, député, etc. Il se trouve que, sans que ça soit dit dans les constitutions, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Et c'est curieux parce que les citoyens non diplômés du supérieur forment 70% de l'électorat. Et pourtant, on porte au pouvoir même pas les 25% de diplômés du supérieur, mais les 10% qui sont le gratin des diplômés. C'est quand même curieux, quoi. Hein? Comment maintenir la barrière? Alors, évidemment, il faut garder le pouvoir, hein, c'est ça, le problème. Alors, on n'est plus comme dans Sparte, où on avait une démocratie de guerriers. Hein. J'évoque rapidement Sparte, dans cette vieille cité antique, de Lacédémone de Grèce, on a une démocratie de guerriers. Mais cette démocratie de guerriers, elle est nourrie, entretenue par les ilotes. Les ilotes sont les paysans qui travaillent sur les parcelles qui appartiennent aux guerriers, hein, qui ne font que ça, ils font que la guerre et la politique, hein, les guerriers. Mais à l'intérieur de ce corps de guerriers, c'est la démocratie la plus absolue. Hein. On élit le roi. C'est purement démocratique. Mais c'est basé sur une inégalité fondamentale, la bipartition entre hommes libres et ilotes, qui sont les serfs, les esclaves qui disent pas leur nom, ils sont pas esclaves, on peut pas les vendre, mais enfin ils sont traités comme tels. Hein. Alors évidemment, à l'époque de Sparte, lorsque les ilotes faisaient semblant de se révolter, ben on leur tranchait la gorge.
On faisait pas semblant de leur trancher la gorge, par contre.
Pas du tout, on les tuait. Comme ça, on maintient son pouvoir. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Bon, d'accord, on emploie des forces de police terribles contre les manifestants, mais enfin, on les égorge pas encore. Ça viendra peut-être un jour, je ne sais pas.
Oh, ouais, y a pas besoin d'aller jusque là, il y a juste à licencier les gens et à les jeter dans le caniveau où ils peuvent crever tranquillement sans faire trop de bruit. C'est moins sanglant qu'un égorgement.
C'est ça. Bon, on pourrait aussi poser la question, comment maintenir la barrière, c'est-à-dire comment empêcher ces villes prolétaires d'accéder, comment maintenir son pouvoir, ses bons diplômes en quelque sorte. Là, il faut se tourner vers les États-Unis qui donnent le modèle, qui maintenant est adopté progressivement en France, en moins pire, mais enfin en France aussi. Eh bien, il faut se transmettre les titres universitaires les plus prestigieux, les plus onéreux aussi, hein, évidemment. Aux États-Unis, alors là, c'est l'état final du système, la moitié des étudiants des 12 universités les plus prestigieuses descendent des 10% des ménages les plus riches. La moitié de Harvard, la moitié du MIT, et les moitiés de... ce sont les ménages les plus riches qui fournissent la moitié des étudiants. Ben oui, parce que les droits d'inscription sont terribles. Alors, un pauvre ou un demi-pauvre, peut encore espérer s'inscrire là-dedans, mais il est obligé de s'endetter pour 30 ans. Donc c'est ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis pour accéder à certaines universités prestigieuses qui assurent le pouvoir, qui assurent l'emploi rémunéré. Il faut s'endetter pour 30 ans. Les banques servent à ça d'ailleurs. D'ailleurs, de plus en plus en France, les banques proposent aux étudiants un peu besogneux et surtout pas très riches des prêts comme ça. C'est important. Alors, en France, les études universitaires sont moins coûteuses qu'aux États-Unis. Mais on constate depuis longtemps que les établissements d'élite, hein, Polytechnique, Centrale, l'ENA, etc., sont essentiellement peuplés par les enfants de la bourgeoisie. À l'ENA, par exemple, il y a 6% de fils d'ouvriers d'employés. Alors que c'est plus de 50% de la population active. Hein. 5%, 6%. Polytechnique, c'est 1,1%, c'est pire. Hein. Donc à Polytechnique, sur 100 polytechniciens, élèves de Polytechnique, il y a un enfant de famille modeste, de travailleur en quelque sorte. Et cet apartheid méritocratique, comme l'appelle Rimbert, s'accentue à partir des années 50. C'est-à-dire que ça s'aggrave. Effectivement, moi j'ai fait mes études universitaires à la fin des années 60. C'était encore accessible, les filières polytechniques, centrales, les mines, etc., à des enfants de familles modestes. Ça a régressé de façon considérable. Hein. Le fossé, c'est l'inégalité sociale devant les diplômes, s'est aggravé. Alors que l'époque est une époque de massification des études universitaires. Hein, le nombre d'étudiants est multiplié par 10. J'ai passé le bac en 1968. Il y avait à l'époque, je crois, 14%, 15% de la classe d'âge qui passait le tout baccalauréat confondu, en quelque sorte. Et donc, les étudiants étaient encore une minorité. Aujourd'hui, le bac est passé par énormément d'étudiants, fort heureusement, mais pour aboutir à des universités, mais qui n'ont plus du tout le même pouvoir de donner du travail et une situation sociale. Il y a eu en même temps une massification, une dégradation. La seule partie qui est restée la même, c'est le noyau dur. Les écoles de préparation, les prépas, hein, les grandes écoles et les grands établissements prestigieux. Là, on n'y touche pas. C'est resté la même chose. Et il y a des moyens dans ces secteurs universitaires. Rimbert dit, bah, quelles sont les incidences politiques. Là, ça devient très actuel et très intéressant. Hein. Et il intitule d'ailleurs son chapitre « Blanchir notre argent par nos vertus ». Fermez les guillemets. Ce qu'on pourrait traduire plus brutalement par « Nous sommes riches parce que nous sommes les meilleurs et les plus vertueux ». Nous sommes riches parce que c'est nous qu'on est les meilleurs. Il fait une citation et il pose la question « Les 10% qui détiennent l'argent, le pouvoir, se reconnaîtront-ils ?» Dans cette citation de l'écrivain américain Matthew Stewart, publiée en 2018 dans les colonnes du très chic, distingué magazine The Atlantic. Voilà, je vais vous lire cette citation. « Nous, les 9,9%, nous promenons en jeans et t-shirts, hérités de nos débuts soi-disant modestes. Nous préférons signaler notre statut en parlant de nos corps nourris bio, des exploits de notre progéniture et de la rectitude écologique de nos quartiers. Nous avons... oui, oui, c'est pas mal. Hein. En fait, c'est cruel, mais c'est vrai. Hein. Nous avons compris comment blanchir notre argent par nos vertus supérieures. Surtout, nous avons appris à transmettre tous ces avantages à nos enfants. » Fermez les guillemets. Alors, bien sûr, Rimbert fait tout un chapitre que je vous épargne sur la façon dont les riches s'occupent énormément de leur progéniture et de leur destin. Il s'agit de transmettre les diplômes, de se transmettre les bonnes filières, etc., les bons établissements, et les riches et ces surdiplômés, ils s'en occupent. Hein.
Puis tu oublies l'essentiel, André, de transmettre le capital. Quand même, ce qui définit un bourgeois, fût-il suceur de courgettes biologiques, qu'il est allé chercher en vélo à la MAP.
On peut penser que ces gens ont un patrimoine. Ce ne sont pas forcément les plus gros détenteurs du capital, mais ils sont détenteurs des fonctions qui donnent du pognon. Ils ont rapport au pognon. C'est une bourgeoisie. Et d'ailleurs, Rimbert nous dit à la fin de son article, ça nous rappelle que la lutte des classes existe bel et bien, malgré ses discours officiels. Il poursuit la citation de Stewart. Voilà ce qu'il fait dire à ces riches. « Nous faisons tourner la machine qui transfère les ressources des 90% vers les 0,1%. Nous avons été heureux de prendre notre part du gâteau. » Fermez les guillemets. C'est un aveu. C'est nous qui permettons le transfert de ces richesses du plus grand nombre vers le plus petit nombre. C'est-à-dire la grosse pompe à finances qui permet aux très riches de s'enrichir toujours davantage grâce à ces 10%, 10, 15% de surdiplômés de l'université. Voilà leur fonction. Je vous passe quand même toutes les méthodes qu'utilisent ces 10% de surdiplômés pour transmettre leur pouvoir universitaire, leur filière, etc., à leur progéniture. Alors, pour terminer, les conséquences politiques de cette évolution finale de méritocratie. Depuis les années 90, socialistes, démocrates, verts, forment des partis de diplômés. C'est une constatation. Si nous regardons sociologiquement qui sont les socialistes, les démocrates, les progressistes, les verts, etc., enfin, ceux qui se proclament du moins progressistes et verts, nous constatons que ce sont des partis de diplômés. Et ces partis sont largement désertés par les classes populaires, qui n'y trouvent pas leur place. Ouvriers, employés, ne votent plus pour ces partis. On se demande pourquoi les salariés, ouvriers, employés, ne votent plus à gauche. Quelle est l'origine, en quelque sorte, de cette catastrophe politique pour la gauche, qui est la désertion des ouvriers et des employés? Ils ne s'y reconnaissent plus dans ces partis. Ils ne sont plus défendus par ces partis. Pour eux, ça fait partie d'une aristocratie, d'une bourgeoisie intellectuelle, méprisante souvent à leur égard, et dont le discours n'est pas du tout destiné à eux. Alors que font-ils quand ils votent encore? Car n'oubliez pas qu'il y a 50% d'abstention, en gros. Eh bien, ouvriers et employés vont-ils leur suffrage vers des partis qui se définissent contre ces élites libérales? Même si certains ne défendent pas du tout les employés et les ouvriers. Songez que un des ouvriers qui vote, ou des employés qui votent pour le Front National, vote pour une extrême droite qui n'a rien à voir avec un parti de gauche, dont le programme politique n'a rien à voir avec un programme social favorable aux employés et aux ouvriers. Mais c'est une conséquence de cette formation de cette classe bourgeoise élitiste de gauche. Et aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Pourquoi Trump a-t-il été élu assez largement par des milieux populaires qui jadis votaient démocrates? Enfin, le Parti démocrate était le parti des syndicats, des ouvriers, des camionneurs, etc., et des minorités, etc., etc. Et aujourd'hui, le vote populaire américain se reporte vers leurs pires ennemis de jadis, c'est-à-dire les républicains, qui ont adopté évidemment un langage populiste, un langage démagogique, etc., qu'on connaît. Mais c'est la faute à qui ?
En France, ça me fait penser à Sarkozy, qui est la vulgarité incarnée, l'inculture incarnée, le mec qui avait osé dire que lire La Princesse de Clèves, ça servait à rien, etc. Sarkozy n'a pas été élu malgré son inculture et sa vulgarité, mais très certainement grâce à son... Parce que beaucoup de Français en avaient marre de se faire diriger par des types lettrés, enfin tu vois, des Pompidou qui avaient écrit des anthologies sur la poésie, des Mitterrand cultivés qui savaient écrire et parler la France. Au bout d'un moment, beaucoup de gens ne se sont plus reconnus dans ces élites lettrées. Sarkozy aurait pu aussi être élu grâce à son inculture revendiquée.
Oui, ce qui est terrifiant, c'est que même les études elles-mêmes, les connaissances, la science sont compromises par cet élitisme. T'entends des gens communément dire c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on sait les choses, etc. Moi je suis plombier ou je suis charpentier, je suis aussi malin que ces gens-là, etc. Pourquoi est-ce que c'est ces gens-là qui nous gouvernent? C'est grave parce qu'à la limite t'as une remise en cause de la recherche, de la science, du rationalisme. On voit monter l'irrationalité, l'irrationalisme dans notre société. Les sectes, les évangélistes, l'islamisme, etc. C'est une régression de la pensée. C'est une des conséquences de ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire de la formation d'une élite héréditaire, riche, au service de la grande bourgeoisie. D'ailleurs, je vais vous faire une petite citation de Piketty.
Thomas Piketty, l'économiste, iconoclaste.
C'est ça. Voilà ce que dit Piketty. Ouvrez les guillemets. Si l'on veut comprendre la montée du populisme, il met populisme entre guillemets, puisqu'il est utilisé, c'est un mot utilisé comme une sorte de stigmatisation de ce qui n'est pas bourgeois. Il n'est pas inutile de commencer par analyser cette montée en puissance de l'élitisme. Fermez les guillemets. C'est-à-dire qu'il lit très clairement la montée du populisme comme expression politique avec la formation de cette, aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est exactement le même phénomène. Pourquoi les ouvriers américains voteraient pour un Biden, un archi-milliardaire qui représente les milieux cultivés des grandes métropoles américaines? Pourquoi sont-ils mieux représentés par un parti démocrate farci de ces grands universitaires riches plutôt qu'un parti républicain? Ils n'y voient pas l'avantage. Donc ils votent pour le langage le plus démagogue. Et Trump ne se prive pas de stigmatiser la gauche intellectuelle, les médias, etc., universitaires américains. Cette ligne de fracture entre les riches intellectuels, intellectuels et les travailleurs non diplômés, etc., est une bénédiction pour ceux qui sont impatients de liquider les clivages qu'ils jugent dépassés. En effet, gauche, droite, économiquement faible, tout ça est dépassé. Je vais vous faire une citation très intéressante de l'hebdomadaire hyper-libéral The Economist du 6 juin 2020. Dans de nombreux pays, le vieux clivage gauche-droite fondé sur l'économie a été remplacé par un clivage libéral-conservateur qui repose sur la culture. Fermez les guillemets. Donc on rejette dans le conservatisme, le populisme, l'obscurité, tous ceux qui ne sont pas pour le libéralisme en quelque sorte. Et il n'y a plus de gauche-droite, il y a simplement intellectuellement les gens qui sont pour le libéralisme actuel, moderne, etc., progressiste, et les gens qui sont sur le passé. Alors on rejette dans un enfer en quelque sorte aussi bien les partis d'extrême droite traditionnalistes, fascistoïdes, racistes, etc., et les gens qui s'opposent au libéralisme économique. C'est pratique, hein. Il n'y a plus de gauche et de droite, hein. Bon, en réalité, Girimbert, c'est une fumisterie intégrale. La lutte des classes existe bel et bien. On ne peut plus classique, on ne peut plus traditionnel. En fait, il y a des gens qui ont le pognon et le pouvoir, et il y a les autres qui bossent. C'est pas parce que tout est fait pour obscurcir le débat politique que pour autant il n'y a plus ce clivage. Ce clivage reste tout à fait fonctionnel, tout à fait réel.
On va à nouveau citer le milliardaire américain Warren Buffett qui, à 15 ou 20 ans, avait déclaré « La lutte des classes existe bel et bien et c'est nous, les riches, qui sommes en train de la gagner.
» On va essayer de terminer sur une note un peu plus gaie, hein, parce que évidemment, c'est désespérant, hein, ce qui se passe aujourd'hui politiquement. Et dans sa dystopie, enfin dans son ouvrage, Jung porte sur l'année 2033, dit voilà, ce système bien huilé qui donne le pouvoir donc à cette élite va éclater car on va avoir un puissant mouvement populiste, hein, c'est-à-dire que les travailleurs, les exploités, les employés, etc., vont pouvoir s'allier avec des gens qui vont rompre avec cette bourgeoisie intégrée. Ce sont les femmes. Les femmes, le féminisme en quelque sorte, pour Jung. Alors, je ne pense pas que ça se passe de cette manière-là, mais enfin, ce que dit Jung, c'est que pour que le système éclate, il faut impérativement qu'une partie de ces gens diplômés, universitaires, très clairement, quittent le camp des possédants, des riches, pour rejoindre le mouvement populaire. Sinon, ils n'ont aucune chance de triompher. Je pense qu'aujourd'hui, le destin politique se passe dans les classes moyennes, y compris les classes moyennes universitaires, cultivés, etc. Ces gens vont-ils définitivement se ranger du côté, même si c'est une adhésion qui se veut progressiste, de gauche, libérale, etc. Vont-ils se ranger toujours dans le camp des riches contre le mouvement populaire, contre les salariés, les employés, 60% de la population ne font pas partie de cette bourgeoisie petite, moyenne ou grande, diplômée ou très diplômée. Alors, pour faire bouger les positions, il faudra bien que quelqu'un bouge. Non, on ne peut pas imaginer que tous les ouvriers et les employés deviennent des universitaires diplômés de HEC ou de l'ENA. En revanche, on peut imaginer qu'une part de ces gens passés par les universités comprennent le rôle qu'on leur fait jouer et choisissent un autre camp.
Merci à André pour cet exposé que tu peux retrouver sur notre site polemixetlavoixoff.com ainsi que plein d'autres émissions aussi insolentes que passionnantes. N'hésite surtout pas à nous laisser un mot, hein, sur polemixetlavoixoff.com. Tu peux même écrire que t'es pas d'accord. En attendant, on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, même lieu, même heure. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr